Et nous allons maintenant passer au dernier débat, au échange de la soirée, de l'après-midi, les oligarchies et le capitalisme d'héritiers, avec trois intervenants, dont un qui est double, c'est un peu comme la Constitution, c'est un peu comme deux dont plus un. Alors, je commence par présenter donc Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. Ils sont sociologues, ils ont fait l'essentiel de leur carrière au Centre national de la recherche scientifique, où ils ont fini directeur de recherche ils sont restés jusqu'en 2007. Ils travaillent, tous leurs travaux ont porté sur la haute société, la noblesse fortunée, la grande bourgeoisie, à partir d'une démarche anthropologique. Je suppose que vous avez entendu parler, sinon lu, certains de leurs travaux sur les quartiers bourgeois et quartiers d'affaires, sur grandes fortunes, dynasties familiales et formes de richesse en France, et puis plus récemment, sociologie de Paris, 2004, sociologie de la bourgeoisie, 2000, les ghettos du Gotha, 2007, qui est ressorti en point, Paris 15 promenades sociologiques chez Payot en 2009 et Le Président des Riches, le livre qui a eu plus de succès que les autres, Le Président des Riches, enquête sur l'oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy à la découverte qui est paru en 2010. Voilà. Je présente tous nos intervenants, comme ça ça sera fait, je ne l'entourerai pas. Yann Algan est né en 1974, il est professeur d'économie à Sciences Po, docteur en économie de l'Université Paris 1, agrégé des universités en sciences économiques. Il est professeur d'économie de 2004 à 2008 à la Paris School of Economics, 2007-2008 professeur invité à MIT et Harvard, spécialiste des interactions sociales, des inégalités et des politiques publiques. Il a publié avec Pierre Cahuc en 2007 « La société de défiance, comment le modèle social français s'autodétruit ». En 2010, comment construire une société de confiance. Et puis, à ma droite, Ernest-Antoine Sellière, que vous connaissez forcément, qui a été diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, licencié en droit, ancien élève de l'ENA. Il a commencé comme conseiller des affaires étrangères en 1969. Il a été chargé de mission au cabinet de Jacques Chaban-Delmas. Et puis, il est rentré dans les années 1970 au groupe Wendel, dont il est actuellement président du conseil de surveillance. Il a été, c'est à ce titre certainement que vous le connaissez, il a été président du MEDEF, du Mouvement des entreprises de France, d'ailleurs lui qui a contribué au changement de nom, de 1997 à 2005, et président de Business Europe, Confédération des entreprises européennes, de 2005 à 2009. Donc notre thème, ce sont les oligarchies et le capitalisme d'héritiers. Donc nous quittons le domaine de la République des juges, nous rentrons plutôt dans celui des relations réseaux et relations d'intérêt, sans parler de conflits d'intérêts, et avec trois approches, une approche, je dirais, de sociologue, une approche d'économiste et une approche d'homme de terrain et d'entrepreneur. Voilà. Merci. Donc je passe la parole tout de suite à Monique. C'est Michel qui commence. Voilà, parce qu'ils sont deux, mais qui sont rassure, un qui parle pour deux.
On a droit qu'à un quart d'heure à nous deux.
Non, ils n'ont pas augmenté leur temps. Voilà.
Top.
Allez-y.
Donc
ça commence bien.
Parlez plus.
Non. C'est toujours un peu hésitant. Hein, c'est pas. Voilà. Faut pas vous en faire. Et à la longue, ça s'arrange. Donc, ce que je vais vous dire très rapidement, c'est un peu ma surprise par ce que j'ai entendu toute la journée l'apport que la sociologie donner en plus par rapport à la réflexion sur la séparation des pouvoirs. Parce que nous, séparation des pouvoirs, lorsque Yves Michelon nous a contactés pour cette soirée, on s'est dit, mais c'est très intéressant, parce que l'idée même de séparation des pouvoirs, c'est un peu un espèce d'oxymore, ça. Les pouvoirs ne peuvent pas être séparés. Dans notre société, ce que nous avons constaté en travaillant sur la haute société française pendant des années, ce que nous avons constaté, c'est que dans la pratique, il n'y a pas séparation, mais il y a bien fusion des pouvoirs dans le même groupe social, dans la même classe. Et c'est ce que je voulais vraiment dire en entrée ici, bien enfoncer ce clou. Il y a en France aujourd'hui une oligarchie qui est au pouvoir, et elle est au pouvoir, ça veut dire qu'elle est au pouvoir sous toutes les formes de pouvoir. Elle est au pouvoir en politique. On a parlé du Parlement tout à l'heure. Vous ne savez peut-être pas qu'au Parlement, il y a des députés. Que parmi ces députés, il y a 1% de députés qui ont été ouvriers ou employés avant d'être élus. Alors que vous avez 81% de patrons, de cadres supérieurs, de professions libérales, de catégories sociales aisées, élevées. Donc on a une Assemblée nationale qui n'a rien de national, et ceci met déjà dans la poche de l'oligarchie le pouvoir politique. Et pour ce qui est des autres pouvoirs, le pouvoir judiciaire, bon, on a beaucoup vu les auteurs anciens et tout ça, c'est très intéressant, c'est très instructif, c'est bon. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a posé une question très intéressante, qui était de dire, c'était sur le thème enseigner la justice, enseigner le droit. Et il y avait une autre dimension dans sa question. Ce que je veux dire, sa question, c'était de dire, est-ce qu'il y a un pouvoir judiciaire qui est le même pour tous? Est-ce qu'il y a une justice qui est la même pour tous? Et là aussi, on peut très bien dire qu'il y a une justice qui n'est pas une justice égale pour tous. Entre les procès de droit civil, où vous avez des gens qui sont dans le même milieu finalement, et flagrants délits, les audiences de flagrants délits, vous avez morceaux de la société qui sont traités par la justice de façon extrêmement différente. Bon, on pourra revenir là-dessus, mais pour ce qui est des autres pouvoirs, ce que nous avons vu avec Monique pendant tout notre travail, c'est que vous avez au sommet de la société une oligarchie qui cumule les différentes formes de pouvoir. Alors, par exemple, il y a les avocats d'affaires aussi dans ce milieu, qui sont extrêmement nombreux. Vous avez des gens qui sont, bien entendu, industriels, financiers, bon, ça va de soi. Mais il y a aussi des membres de l'Institut. Monsieur d'Ormesson, qui est un héritier, qui a un très beau patrimoine, Jean d'Ormesson, est issu de cet univers, il a son patrimoine, il fait une carrière de journaliste et d'écrivain, très bien, mais il a du pouvoir dans ce champ-là. Par exemple, il a du pouvoir dans le champ des médias. Ne parlons pas des industriels qui maintenant sont des financiers qui ont investi dans la presse, par exemple, dans la presse gratuite. La presse gratuite est aux mains de grandes fortunes industrielles en France aujourd'hui. Donc il y a ce pouvoir sur les médias aussi. Autrement dit, et je terminerai là-dessus pour que Monique puisse dire un petit mot, autrement dit, ce que nous voulons mettre sur la table là, c'est que la séparation des pouvoirs, ça existe sur le papier, il y a des théories, il y a des lois, il y a des règles, et puis il y a la pratique. Dans la pratique, tout le beau monde dont je viens de vous parler se fréquente, se connaît, fréquente les mêmes cercles, les mêmes clubs, met les enfants dans les mêmes écoles exceptionnelles, sont dans les mêmes conseils d'administration, vont jouer au golf sur les mêmes terrains de golf, etc., etc., etc. Ont des écuries de course et se voient sur les champs de course. Ils se voient tout le temps, et qu'ils soient membres de l'armée, généraux, qu'ils soient industriels, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient dans la presse. Donc il y a une cumulativité des pouvoirs par rapport à la question qui est posée ici, séparation des pouvoirs, pose vraiment un problème de démocratie fondamentale.
Oui, alors à travers cette sociabilité mondaine dont vient de parler Michel, on est véritablement face à une classe mobilisée. Donc une classe en soi objectivement, au sens marxiste du terme, est une classe pour soi qui a conscience d'être une classe sociale. Et pour cela, elle mobilise le droit. Et aujourd'hui, pour nous, sociologues, c'est une journée passionnante, parce qu'on s'aperçoit à quel point le droit, on devrait dire le droit de telle société revendiquée qui est un rapport de force, on dit le droit, la loi, la démocratie. Aujourd'hui, on a entendu un nombre d'articles définis absolument pléonasmatiques du réel. J'ai été stupéfaite. Le droit, la question de la dame dont Michel a parlé, ben en effet, le droit est-il enseigné dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires? Non, le droit n'est enseigné au mieux qu'à l'université, dans des filières sélectives dans lesquelles les enfants des classes moyennes et des classes populaires ne se reconnaissent pratiquement pas. Le droit est le moyen, avec l'esthétique, utilisé par les dominants pour transformer leurs intérêts particuliers en intérêt général, en intérêt universel. C'est la loi. Vous devez vous y plier, même si c'est leur loi. Alors voilà ce que je voulais rajouter. Je voulais aussi rajouter sur la séparation des pouvoirs. Quand on voit qu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui, de nombreux hommes politiques, députés de droite ou de gauche, sont aussi des avocats en même temps dans ce cumul, où est la séparation des pouvoirs? Quand je vois qu'un ministre est en même temps maire d'une très grande ville, dites-moi où est la séparation des pouvoirs? Le cumul des mandats, c'est le conflit d'intérêts fait homme. La séparation des pouvoirs. Moi, aujourd'hui, toute la journée, j'ai pensé au premier parti de France, le parti des abstentionnistes. Qu'est-ce que c'est que cette classe politique qui aujourd'hui accepte de se faire élire avec près de 60% d'abstention? À chaque élection, il y a 1 million de votes blancs qui ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Où elle est la démocratie? N'est-on pas revenu dans un régime censitaire où ce sont les favorisés, 1% d'ouvriers et d'employés alors qu'ils sont 54% dans la population active, que ce sont donc les favorisés qui font des lois pour défendre leurs propres intérêts? Les classes moyennes et les classes populaires, les abstentions sont massivement liées aux classes populaires. Plus les gens sont éloignés des pouvoirs, quels qu'ils soient, plus ils habitent dans ces cités défavorisées, moins ils votent. Et aujourd'hui, ils sont 60%. Quelle est la légitimité de la classe politique d'aujourd'hui? Merci à vous.
Voilà. Merci. Merci. Vous aurez l'occasion, parce que vous n'avez pas utilisé tout votre temps, vous aurez sûrement l'occasion d'en profiter pour revenir. Ben, je vais demander à M. Sellière, justement, de dire qu'il n'est pas du tout d'accord, et de nous donner sa propre version. Je voudrais juste dire avant ce n'est pas du tout que je me désolidarise des deux personnes qui ont parlé déjà. Je voudrais dire que pour moi, un livre très important, il est publié dans les années 1950 aux États-Unis, donc aux États-Unis, pas en France, c'est le livre de Charles White Mills, qui s'appelle « Les élites de pouvoir ». Et c'était une analyse un peu dans le sens de ce que font les Pinson-Charlot, de la coalition des intérêts entre la classe militaire, la classe politique, la classe médiatique aux États-Unis. C'est un livre qui a eu relativement peu de succès en France, bien qu'il ait été publié chez Maspero, parce qu'il introduisait des catégories qui n'étaient pas des catégories marxistes de base. Une oligarchie, ce n'est pas une catégorie marxiste de base, et c'est bien d'ailleurs ce qui pose le problème dans ces analyses. Donc, c'est ni tout blanc ni tout noir, c'est pas un phénomène. Deuxième chose que je voulais dire, en introduisant juste avant M. Sellière, c'est que il faut pas croire que le pouvoir, je le rappelais hier à la radio, le pouvoir n'est pas du tout une affaire désintéressée. C'est normal que la politique soit une affaire d'allocation de pouvoir et de satisfaction des intérêts. Le problème, c'est de savoir jusqu'à quel point les allocations d'intérêts satisfont les gens ou les conduisent à la révolte. Et je terminerai cette petite mise en forme, si vous voulez, disant que dans La richesse des nations d'Adam Smith, il y a un passage extrêmement intéressant sur quelles sont les classes, parce qu'Adam Smith a beau être un économiste dit libéral, il parle de catégorie, de classe sociale, et il se demande quelle est la classe, quelles sont les classes qui sont les plus à même de gouverner en fonction de rapport entre leur intérêt particulier et l'intérêt général. Alors il dit que la classe industrielle a la connaissance, le dynamisme, mais que son intérêt d'enrichissement financier n'est pas forcément en accord toujours avec l'intérêt général. Il dit que la classe ouvrière et travailleuse a intérêt à l'enrichissement, donc son intérêt particulier et aussi l'intérêt général, simplement elle n'est pas éduquée et elle n'a pas de capacité politique. Et il dit finalement la classe dont l'intérêt s'identifierait le mieux aux intérêts de la société, parce qu'ils ont du temps, ils sont instruits, c'est la classe des propriétaires terriens. Mais il dit le problème, c'est que ça ne les intéresse pas. Et c'était juste pour...
Bon, ben, ça a commencé, si j'ose dire, assez fort, puisque les époux Charlot Pinson nous ont expliqué en réalité que la démocratie française était totalement aux mains d'une caste, la caste donc qui réunissait les pouvoirs dans une sorte de catégorie à part. Moi, ma conviction, si vous voulez, c'est que dans la démocratie française, que je crois être une vraie démocratie, il existe bien entendu, par des méthodes de sélection, qui sont le vote dans certains cas, le concours dans l'autre, la chance quelquefois, un groupe bien entendu très considérable de gens qu'on peut considérer comme étant dans tous les domaines des dirigeants, et je ne vois strictement rien à redire que ces gens se rencontrent quelquefois pour jouer au golf ou qui fréquentent tel ou tel cercle. Très honnêtement, cette vision un peu gala, un peu point de vue image du monde, de la sociologie française, n'est pas du tout celle que je partage. Mais je voudrais quand même vous dire, si vous le permettez, en prenant le sujet tel que je l'ai lu, quel est en réalité, vu de moi, bien sûr, quel est donc le rôle et l'influence de l'oligarchie économique et financière, c'est-à-dire en fait les possédants dans la démocratie française, et ceci bien entendu avec, comment dirais-je, un point de vue de praticien, puisque je ne suis pas ni un académique ni un avocat. D'abord, pour vous dire que le mot de oligarque, en réalité, n'existe pas dans le langage de la démocratie française. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y ait pas une classe de possédants, de propriétaires, de dirigeants de grandes entreprises qui, par nature, jouent leur rôle dans la démocratie française. C'est bien entendu une évidence et il faut la reconnaître. Mais, je dirais, cette réalité fait l'objet dans notre société française d'un intérêt extrêmement particulier et vivant. Il est alimenté en réalité par deux traditions idéologiques. D'une part le colbertisme qui oppose de manière générale en effet l'État à ceux qui dans l'économie libérale exercent des responsabilités économiques. Donc il y a une tradition colbertiste. Et puis il y a une tradition bien entendu marxiste également qui est extrêmement présente, et comme vous le savez, le marxisme prétend que ce sont les détenteurs des moyens de production qui en réalité ont le pouvoir. Et que donc ce mix entre le colbertisme et le marxisme rend toujours extrêmement vivant en France le sentiment en effet qu'il existe cette caste d'oligarchie économique et financière qui existe, qui exerce un très grand pouvoir. On y met bien entendu les héritiers, c'est très racoleur sur le plan médiatique, et donc tout ceci, je dirais, est un peu, chez nous, excusez-moi du terme, un sport national. Alors moi, bien entendu, je n'échappe pas, en effet, au fait d'être tout à fait au centre de la cible, d'abord parce que je suis emblématique en étant l'un des héritiers Wendel. Nous sommes 1000 actionnaires, je vous le signale, donc une très grande répartition du capital parmi nous, mais enfin, peu importe. Je suis la 10e génération d'un groupe plus que tricentenaire. J'ai fait l'ENA, donc en plus de ça, j'appartiens à cette catégorie, je dirais, particulière. Et j'ai été président du MEDEF, j'ai été président du patronat européen, Et en plus de ça, excusez-moi, j'ai eu la malchance d'être baron, ce qui est évidemment pour les guignols de l'info une opportunité, je dirais, extrêmement sympathique. Donc, je suis en effet de cette catégorie que monsieur et madame Pinson considèrent comme responsable de beaucoup de choses. Alors, ma première observation, c'est tout de même de réfléchir avec vous sur les origines et la nature de cette oligarchie économique et financière actuellement dans notre pays. Et s'il existe un capitalisme familial, et qu'il est bien entendu présent dans l'économie française, en réalité, ce qu'on appelle les patrons, ce qu'on appelle les dirigeants d'entreprise, économiques ou bancaires, ou industriels et autres, sont avant tout aujourd'hui des dirigeants diplômés, qui ont donc fait leur réussite à partir, je dirais, de leur savoir et de la compétition dans le savoir, et également qui y ont fait leur fortune à la mesure de la réussite des entreprises dont ils avaient la responsabilité. Et ceci me conduit à une remarque que je crois assez essentielle, c'est que les oligarques en France ne sont plus des oligarques de naissance. C'est, je dirais, ce qu'on appelle l'aristocratie de l'adolescence qui a remplacé, je dirais, les aristocrates de naissance. Cette sélection qui conduit entre 17 et 24 ans, jeunes gens, garçons et filles, en réalité à être sélectionnés dans les grandes écoles, dans les sections les plus prestigieuses des plus grandes universités. Et cette méritocratie, c'est elle qui tient en réalité aujourd'hui le pouvoir des oligarques dans la société française. Il vaut mieux de nos jours être fils ou fille d'universitaire que fils ou fille d'actionnaire pour accéder à la classe des dirigeants. En France, l'oligarchie, en tout cas économique et financière, est une oligarchie du mérite scolaire et universitaire, et c'est bien, et c'est tant mieux. Alors, par ailleurs, je voudrais quand même également signaler qu'il existe dans notre pays un deuxième phénomène très important, c'est celui d'une économie qui a été largement nationalisée par vagues successives, et une économie dans laquelle, donc, la haute fonction publique a largement, comme on dit, pantouflé. C'est-à-dire qu'en réalité, elle occupe cette haute fonction publique, sélectionnée d'ailleurs par le concours, elle occupe une place prééminente à la tête des grandes entreprises françaises. Je ne vous parle pas évidemment des PME, mais certainement de celles que vous avez à l'esprit, qu'on appelle le CAC 40 et autres, très largement aujourd'hui dirigées par d'anciens hauts fonctionnaires. Et ceci est tout à fait spécifique de l'oligarchie française, parce que ça n'est absolument pas le cas, ni bien entendu aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni au Japon. Ça n'est pas le service de l'État qui prédispose à être à la tête des grands établissements bancaires. À cet égard, d'ailleurs, j'ai eu des expériences amusantes, puisque me trouvant comme président du MEDEF venir avec une délégation de représentative des grands entrepreneurs pour discuter avec Lionel Jospin, lui-même flanqué de ses conseillers. Nous étions 12 à 14 autour de la table. Nous étions tous d'anciens hauts fonctionnaires qui étaient sortis de l'ENA, des deux côtés de la table. Ça vous montre en effet que, et j'étais de cela, bien entendu, à la tête du MEDEF, ce qui vous montre quand même, en effet, que cette réalité française est extrêmement forte. C'est une méritocratie par la sélection intellectuelle qui donne dans notre pays aujourd'hui le pouvoir en matière économique et financière. Alors, ma deuxième observation sera pour juger, si vous permettez, assez rapidement, je dirais, dans mon expérience, quel est le degré d'influence de cette oligarchie économique et financière française sur les affaires de l'État. Je dois dire que mon expérience, notamment en tant que président du patronat européen, est tout à fait claire. Nous avons en France, au titre donc de cette oligarchie, une influence bien moindre que celle qui existe en Allemagne, en Italie, en Angleterre, où les organisations patronales, que sont le CBI, le BDI, la Confindustria, sont d'une très grande proximité avec le pouvoir politique, qui ne répugne en rien de s'afficher en contact et à l'écoute du milieu de l'oligarchie, alors que, comme vous le savez en France, rien n'est moins valorisant pour un élu, quelle que soit d'ailleurs son origine politique, que de se trouver vu avec les représentants du haut patronat. J'étais moi-même, en tant que président du MEDEF, souvent j'avais accès à Matignon par la porte de derrière, celle qui mène au petit pavillon, de façon à ne pas être vu. C'est tout à fait spécifique, je dirais, de la réalité sociologique française politique. Alors, quel est le degré, je dirais, d'influence de cette oligarchie financière et économique sur les pouvoirs, sur les trois pouvoirs? En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, je crois que chacun sera d'accord avec moi pour dire que le pouvoir judiciaire en France est totalement hermétique à l'influence de l'oligarchie, je dirais, des représentants du capitalisme. Bien des exemples ont été donnés, bien entendu, spectaculaires, de mise en examen, de personnages, je dirais, considérables, très visibles sur ce plan-là. Et je me souviens, en effet, de Eva Joly, à laquelle on disait « Connaissez-vous ?» Et s'il s'agissait d'un très grand chef d'entreprise, et qui a dit « Oui, je le connais, je l'ai mis en examen. » Donc je crois que sur le pouvoir judiciaire, il n'y a vraiment strictement aucune influence de l'oligarchie, je veux dire que le milieu est carrément, je dirais, réfractaire. Le pouvoir législatif, alors sous d'autres républiques, a été sérieusement encadré par l'argent. Le financement des partis, le financement des campagnes électorales, le financement quelquefois du dépôt d'amendements était une pratique courante. Je dis bien sous d'autres républiques parce que la loi y a mis bon ordre et y a mis bon ordre, je dirais, avec méticulosité, si bien qu'aujourd'hui nous sommes en réalité soumis à une transparence très sourcilleuse qui donne donc à la fonction politique énormément de difficultés aujourd'hui à attirer de façon, je dirais, occulte de l'argent, et c'est là aussi tant mieux. Et il faut y applaudir. Je crois que le milieu politique n'est plus, il l'a été dans d'autres pays, il a été chez nous, n'est plus, je veux dire, sous la dépendance directe ou indirecte de l'argent que pouvaient manier les oligarques autrefois. Je signale également, pour faire pièce à ce qui a été dit précédemment, qu'en réalité, la représentation de l'oligarchie économique et financière dans les parlements, Sénat et Assemblée nationale, est extrêmement modeste, de l'ordre de 10 à 12%, alors que l'immense majorité, comme vous le savez, est faite de fonctionnaires, ou pensionnaires, ou petits fonctionnaires, qui jouissent de cet immense privilège de pouvoir faire carrière politique avec la sécurité du détachement par rapport aux services publics, qui leur donne la possibilité à tout moment d'y revenir. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui est un privilège d'ailleurs qui n'existe que chez nous. Je vous signale qu'en Angleterre, quand un fonctionnaire se présente à une fonction élective et qu'il est élu, il démissionne définitivement, immédiatement, du service public. Alors, du fait de ce que, en matière donc de pouvoir législatif, il y a peu de présence, le lobbying, comme on dit, est au contraire, lui, extrêmement développé. Et c'est un lobbying qui est le fait du MEDEF, de la CGPME, de l'AFEP, des fédérations et quelquefois, bien entendu, des représentants des grands groupes directement. Et je ne vous cache pas que je le crois utile et même indispensable. C'est le lobbying qui apporte aux législateurs les arguments tirés de la réalité de l'activité des métiers. Mais croyez-moi, il n'est pas très efficace, en tout cas au niveau législatif, car la réticence et la méfiance du monde politique vis-à-vis de l'entreprise en France est très développée, à droite comme à gauche, et l'influence est très difficile à exercer. En ce qui concerne le pouvoir exécutif, et j'en finis là, si vous voulez bien, c'est là, bien entendu, que le lobbying est le plus développé. Pourquoi ? Parce qu'il se développe auprès des administrations, qui sont permanentes, comme auprès du ministre et de son cabinet qui l'entoure, et qui est évidemment, lui, plus passager. Chacun, donc, cherche à promouvoir auprès de l'exécutif, qui est assailli, d'ailleurs, par des experts, par des représentants des intérêts, comme on dit, particuliers, et qui cherche, bien entendu, à éviter des mesures, à en favoriser ou à attirer l'attention sur les conséquences de mesures qui ont été prises dans le passé. Et la décision politique, à mon sens, qu'elle se soit au niveau législatif ou exécutif, a besoin d'être éclairée par ceux qui sont des praticiens dans la pratique du réel. Et comme vous l'imaginez, la nécessité de devoir tenir compte de la construction européenne et de la mondialisation rend ce contact entre cette interface entre le pouvoir politique exécutif et le monde des oligarques extrêmement important pour faire prendre en compte la concurrence mondiale à laquelle sont exposés, bien entendu, les oligarques quotidiennement et que très souvent le pouvoir administratif ou politique je ne dis pas méconnaît, mais ne prend pas en mesure à la hauteur de ce qu'il devrait faire. Je vous rappelle, sans vous y insister, que les 35 heures, par exemple, ont été pris par le pouvoir administratif et politique en pleine méconnaissance des exigences de la compétition internationale. Pour être tout à fait complet, je pense que le pouvoir, d'ailleurs, au sommet, c'est-à-dire au niveau du chef d'État, au niveau des ministres, est également irrigué de contacts. Ce sont les visiteurs du soir de François Mitterrand, les amis de Pompidou ou de Giscard, ce sont les riches, comme on dit aujourd'hui, de Sarkozy, et moi je vous dis que ce sont d'utiles conseillers auprès de ces hautes autorités, et que loin, je dirais, de les décrire comme on le fait médiatiquement et très commodément, comme évidemment la compromission, en réalité, ils sont dans leur responsabilité en apportant à ceux qui exercent le pouvoir exécutif la vérité telle qu'ils la voient dans leur responsabilité d'entrepreneur et de métier. Et d'ailleurs, ceci est constant dans tous les pays européens qui nous entourent, et je vous garantis que pour avoir vu souvent Mme Merkel entourée par la haute industrie du BDI en Allemagne, qui ne réussit pas si mal, la proximité affichée entre le pouvoir politique, administratif et le pouvoir économique et financier est un élément de réussite. Je conclus, si vous permettez, Président, par quelques mots, pour dire que je crois que le thème assez racoleur de la place démesurée des riches, entre guillemets, dans nos institutions démocratiques, qui fait régulièrement grand tapage médiatique, est de plus en plus creux, bien qu'évidemment très présent dans le débat politique, mais permettez-moi de dire que ce n'est pas forcément contradictoire. L'économie de marché est aujourd'hui la chose la plus partagée au monde. Il n'y a pas un pays qui échappe aujourd'hui à l'économie de marché. Et si nous voulons gagner en tant qu'économie française, il faut bien entendu favoriser une interface meilleure entre le monde politique, élu, responsable dans notre pays, et le milieu économique qui, lui, fait la croissance et l'emploi, et que la société de défiance, qui est encore bien la nôtre, et qui d'ailleurs actuellement est en pleine résurgence, ne me paraît pas, je vous le dis très franchement, de nature à faire réussir non seulement nous-mêmes, mais probablement nos enfants. Merci beaucoup.
Alors, je passe maintenant à Yann Algan, sur la société de défiance.
Oui, parfait. Merci pour la transition. Et puis, j'essaierai aussi de ne pas être creux et de donner suffisamment de faits pour montrer que cette société de défiance n'est pas basée juste sur des fantasmes, mais aussi sur quand même un fonctionnement de nos institutions, de notre économie, qui donne malheureusement trop de place à l'opacité et à l'héritage. Donc, je ne peux pas tout d'abord m'empêcher de noter un peu le paradoxe de discuter dans cette salle des héritiers de l'oligarchie. Il me semblait que deux siècles après la Révolution française, on avait vraiment justement fini, grâce à la version du jeu de paume, avec la classe des héritiers. Il me semblait qu'on n'avait plus maintenant, notre destinée n'était plus liée à notre naissance. Or, il semble que les Français sont loin de partager ce sentiment. Et j'aimerais tout d'abord partir justement de la singularité française dans le ressenti. Et puis après, j'essaierai de comprendre est-ce qu'il y a une singularité française dans le fonctionnement lui-même de notre système économique et de notre système institutionnel. Alors du point de vue du ressenti, il y a effectivement des points qui rejoignent justement notre analyse de la société de défiance qui sont très particuliers chez nous par rapport aux autres pays développés. Tout d'abord, dans de nombreuses enquêtes internationales qui couvrent des milliers d'habitants, la France et les Français se singularisent tout d'abord par leur très grand scepticisme sur la capacité de leur effort et du travail pour pouvoir réussir. Donc selon une enquête traditionnelle qui s'appelle International Social Survey Program, 50% des Français pensent que finalement l'effort ne sert à rien pour pouvoir réussir à long terme. D'accord ? A contrario, en général, plus de 80% des Américains pensent que l'effort est le fruit, va vous amener au succès. Mais lorsque vous regardez les autres pays européens d'Europe de l'Ouest, on retrouve aussi des très hauts scores de personnes relativement optimistes sur la capacité de réussir grâce à leur travail. Et la France, dans toutes ces enquêtes, se situe au niveau le plus haut de pessimisme. Les seuls pays qui sont à peu près au niveau comparable sont les pays de l'Est. Mais bon, on n'a pas le même vécu que lors de ces dernières décennies. Deuxième point, 50% des Français sont persuadés que pour pouvoir réussir, il est nécessaire d'être corrompu et de contourner les règles. Donc c'est quand même un chiffre massif. Ce chiffre est beaucoup plus bas dans l'ensemble des autres démocraties occidentales. Il ne dépasse pas 10 à 15% dans les pays anglo-saxons ou dans les pays d'Europe de l'Ouest. Donc il semble qu'il y ait vraiment une spécificité française sur la façon dont on aperçoit la place de l'héritage ou la nécessité d'avoir de contourner les règles pour pouvoir réussir. Alors, quelle est la réalité derrière ce ressenti? Moi, il me semble que il y a vraiment des dysfonctionnements institutionnels et économiques forts dans notre pays. Je vais essayer de souligner trois dimensions, une dimension plus dans le fonctionnement de notre capitalisme lui-même. Après, j'essaierai d'aborder la place de l'école et ensuite des institutions en pas plus de 10 minutes. Donc, j'essaierai de faire bref. Je commence juste par la dimension économique, en partant d'un point simple qui est le rôle du patrimoine dans notre destinée. Donc, vous savez, le patrimoine, c'est l'ensemble, le stock des biens immobiliers ou financiers que vous avez. Donc, c'est un stock de richesses. Le patrimoine compte beaucoup plus que le revenu lorsque vous voulez expliquer, en fait, les différences de niveau de vie entre les individus. Je vous donne juste un exemple très simple. Les économistes aiment bien comparer, pour mesurer les inégalités, quel est l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Lorsque vous focalisez uniquement sur les différences de revenus, donc du revenu du travail, les inégalités sont de l'ordre de 3 à 3,5. D'accord ? Lorsque vous focalisez sur les inégalités de patrimoine, elles sont de l'ordre de 2600. D'accord ? Donc on est vraiment à une autre dimension. Alors maintenant, vous allez me dire, et ces inégalités n'ont cessé d'augmenter au cours des deux dernières décennies. Avant, on était autour de 1500 fois... un ratio de 2500, on est plus de l'ordre de 2500 maintenant. Alors, vous me direz, très bien, il existe des inégalités de patrimoine, mais peut-être qu'elles fonctionnent juste des efforts différents dans les capacités d'accumulation tout au long de votre vie. Il semble que ce soit moins en moins vrai, en particulier en France. Vous avez une très très bonne étude récente faite par un chercheur, Thomas Piketty, sur le poids de l'héritage, justement dans votre accumulation de patrimoine. Alors ce que montre Thomas Piketty, c'est qu'en calculant le flux de patrimoine que vous recevez en termes d'héritage, d'accord, ça représente à peu près, à l'heure actuelle, 15% du revenu national par an. Alors vous me direz, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Je vous donne juste un ordre de grandeur. En fait, dans les sociétés du 19e siècle, la société vraiment qu'on a en tête pour une société de rentiers, en fait, ce flux d'héritage pour constituer votre patrimoine était de l'ordre de 20%. Et tout au long du XXe siècle, on n'a pas cessé de diminuer justement ce rôle de l'héritage. On est passé à 10% après-guerre, après la Première Guerre mondiale, du fait, parce que là, il y a eu une très forte inflation et certaines familles ont été très affectées par la dévalorisation des actifs. On est passé à 10%, et puis après la Seconde Guerre mondiale, on est passé à 5%. Donc en fait, l'importance de l'héritage dans la constitution de patrimoine était vraiment très très faible. Et puis elle ne cesse de réaugmenter, il y a un mouvement de balancier depuis les années 70, et maintenant on revient à 15%, et il semble qu'on se réoriente vers notre société de rentiers du 19e siècle. Alors, il y a des raisons relativement objectives à ça, qui sont partagées par de nombreux pays occidentaux, c'est le fait que la croissance économique, la croissance des salaires est beaucoup plus faible, en fait, qu'à la période des Trente Glorieuses. Lorsque vous aviez des hausses de salaire de 5% par an, effectivement, grâce à votre travail, vous étiez capable vraiment de vous élever dans la société et à la limite d'être beaucoup plus riche que vos parents et que vos grands-parents. D'accord ? Maintenant qu'on est une société où la croissance économique, la croissance des salaires est beaucoup plus faible depuis les années 70, alors que les rendements du capital sont plus élevés, il y a moins d'inflation, effectivement, mécaniquement, la part du travail est moins importante dans la constitution des richesses. Mais donc ça, c'est un point qui est partagé par l'ensemble de pays. Mais il y a quand même une spécificité française qui est vraiment liée à la fiscalité. Pour le coup, on a une fiscalité qui est relativement permissive sur le patrimoine. Je précise juste un point. L'une des principales explications de la baisse du rôle de l'héritage après la Première Guerre mondiale a été justement la mise en place d'un impôt sur le revenu et d'une fiscalité extrêmement progressive. La fiscalité en France, vous le savez, est devenue régressive sur les plus hauts revenus. D'accord ? En règle générale, les personnes qui gagnent entre 1 ou 2 SMIC ont des taux d'imposition entre 40 et 50%. En revanche, lorsque vous faites partie des plus aisés, d'accord, les 1% les plus riches, vos taux d'imposition sont de 30%. Donc c'est régressif, vous payez moins lorsque vous êtes plus riche, et l'une des raisons, c'est qu'en particulier, le capital est beaucoup moins taxé.
d'accord, parce que ça échappe bien sûr à la CSG, parce qu'on a beaucoup de niches fiscales. Et la présidence, la dernière présidence, a accentué cette spécificité française avec effectivement une diminution des taxes sur les transmissions et sur les successions. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, on a à peu près 100 milliards de donations de successions par an. Finalement, le taux de taxation est effectif et de l'ordre de 10%. Seuls 10 milliards sont récupérés par l'État. Donc on est sur le taux de taxation beaucoup plus faible que ce que vous pouvez avoir au niveau du revenu. Donc ça, c'est une spécificité, je me dirais, dans l'évolution du patrimoine, dans la place de l'héritage. Mais la spécificité aussi française se retrouve dans l'héritage, finalement, de la direction des entreprises. Et là, je ne partage pas vraiment le point de vue précédent. Il existe en France un véritable capitalisme d'héritier, un capitalisme familial, que nous ne retrouvons pas dans les autres pays. Alors, on peut l'étudier de différentes façons. Premier point, il suffit de regarder, bien sûr, le nombre d'entreprises, de grandes entreprises qui sont possédées, finalement, par des héritiers. D'accord ? En général, dans les grandes entreprises, les entreprises du CAC 40, c'est de l'ordre de 70%. Alors, vous allez me dire... Oui, mais bien sûr, par exemple, L'Oréal est possédé par les présidents Bettencourt, mais c'est pas Madame Bettencourt qui gère L'Oréal. Et en plus, cette part est relativement similaire dans les autres pays. Ce qui fait vraiment notre distinction, c'est plus dans les managers, ceux qui dirigent directement l'entreprise. Effectivement, vous avez à peu près une grande entreprise sur trois qui est dirigée finalement par un héritier familial. Donc c'est un chiffre colossal, mais c'est un chiffre d'autant plus colossal qu'il est très très éloigné de ce que vous pouvez constater dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne où c'est plus de l'ordre de 1 sur 5. D'accord ? En revanche, ce que privilégie l'Allemagne ou les pays anglo-saxons, c'est des personnes qui font carrière tout au long de leur vie dans l'entreprise. D'accord ? Je vous donne juste un chiffre, en Allemagne à peu près 2 patrons sur 3 a fait sa carrière dans l'entreprise. Donc la France, tout d'abord, se caractérise par un poids des héritiers familiaux dans la direction d'une entreprise qui est beaucoup plus élevé. Et lorsque ce n'est pas finalement un héritier familial, c'est justement, donc ça a été évoqué précédemment, c'est plus quelqu'un qui a été parachuté par des hautes fonctions ministérielles. Vous avez une très bonne étude sur ce point qui vous montre en fait que 11% des entreprises du CAC 40 sont gérées par des anciens hauts fonctionnaires de cabinet ministériel. Alors 11% c'est peut-être peu, mais cela dit, ce sont justement les personnes qui gèrent les plus grosses entreprises. 60% des actifs en fait financiers du CAC 40 sont gérés par ces managers-là. Donc c'est vraiment conséquent. Et c'est encore une fois une spécificité française et qui augmente un tout petit peu la suspicion sur justement cette espèce de consanguinité entre être un ancien chef de cap pour après diriger une entreprise et la suspicion qu'ont les Français aussi bien vis-à-vis du monde politique que vis-à-vis du monde des affaires. Alors, est-ce qu'il y a une question de mérite ? J'essaierai de revenir sur ce point sur l'école. J'aimerais juste terminer sur un point par rapport à cette spécificité française, c'est qu'elle est relativement néfaste, en fait. Elle est néfaste économiquement, tout d'abord. De nombreuses études montrent que les entreprises gérées par les héritiers sont beaucoup moins efficaces que les autres entreprises parce qu'elles ne laissent pas la place à l'innovation et au talent. Alors, vous avez une grande boutade, vous la connaissez tous, du Buffett, qui dit que ça serait complètement absurde de sélectionner, en fait, l'équipe olympique de 2020 parmi les fils des médaillés de 2000. D'accord ? Ben, pourquoi faire la même chose, alors, dans le monde entrepreneurial ? Au-delà de cette boutade, vous avez eu de nombreuses études qui vous montrent effectivement que les entreprises qui sont gérées par des héritiers sont en général plus de 20% moins performantes que les autres entreprises gérées par des talents extérieurs ou par des personnes qui ont fait leur carrière. C'est une très belle étude qui a été faite sur le Danemark. Si vous voulez, j'essaierai de rentrer un peu plus dans le détail de cette étude au cours de la discussion. Mais c'est aussi, il me semble néfaste, en fait, socialement, c'est-à-dire que ce sont souvent les entreprises qui sont gérées de façon le plus hiérarchique avec le moins de délégation. Alors, c'est ce qu'on appelle un peu le paternalisme familial. Alors, ça permet de diminuer, bien sûr, certaines sources de conflits. Pendant très longtemps, on a montré que le paternalisme familial en France était une solution à la conflictualité des relations de travail et a permis, en fait, de se substituer aux syndicats. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on constate que ces entreprises sont aussi des entreprises beaucoup plus hiérarchisées où il y a beaucoup moins de sentiments de délégation et de sentiments d'autonomie. D'accord ? Ça a été très très bien montré par différents travaux, en particulier par deux auteurs de Harvard, Schleifer et Van Rienen. Donc, il semble que socialement, bon, on ait aussi un sentiment de défiance plus important parce qu'on ne se sent pas reconnu dans son travail et surtout parce qu'on a moins de prise d'initiative ou d'autonomie. Et puis de toute façon, ça fausse un peu la donne. Si d'un point de vue équitable, vous avez l'impression qu'il suffit d'être le fils d'eux ou alors d'être parachuté ministériellement, c'est sûr qu'au sein de l'entreprise, les relations de travail s'en trouvent affectées. Alors maintenant, le deuxième point que j'aimerais aborder, mais il me reste plus beaucoup de temps, il me semble. Deuxième point que j'aimerais aborder, c'est le cas de l'école, parce qu'effectivement, ça a été bien souligné. Si effectivement ce capitalisme familial ou d'héritier venait juste sanctionner un mérite, une méritocratie intellectuelle, je pense que le niveau de suspicion des Français serait bien moindre. Le seul problème, c'est que le contrat de confiance aussi, par rapport à l'école, est détruit. Et je vous avoue que bien sûr, ces études remontent à très longtemps. C'est pas un hasard si on a eu un Bourdieu en France pour vous expliquer que l'éducation, parfois de façon trop caricaturale, hein, mais l'éducation était là justement pour donner un capital symbolique, pour justifier le capital financier. Mais il se trouve qu'on a des études maintenant de plus en plus fines qui permettent de bien comprendre la spécificité de la situation française. En particulier, vous avez une étude internationale qui s'appelle PISA, qui interroge donc des milliers d'enfants au collège, en général ils ont en moyenne 15 ans, et qui essayent de mesurer leur performance cognitive, d'accord, leurs tests, donc en mathématiques, en littérature, mais aussi ce qu'on va appeler les capacités non cognitives, c'est-à-dire l'estime de soi, le sentiment d'aliénation par rapport au professeur. Alors tout d'abord, dans les tests cognitifs, sur les 44 pays interrogés par PISA, on est le pays où le déterminisme socio-économique est le plus élevé. D'accord ? Donc, choc quand même assez important. La France, qui se croyait vraiment, justement, l'exemple du républicanisme, se trouve dans les enquêtes, dans toutes les enquêtes, et ces enquêtes ont été faites en 2000, 2003, 2006, et la dernière a été 2009, on se trouve au rang, en fait, le plus élevé dans le déterminisme social. Alors, vous avez un déterminisme culturel, bien sûr. Je vous donne juste un exemple. Un enfant d'instituteur a 14 fois plus de chances d'avoir le bac qu'un enfant d'ouvrier. Mais il y a aussi un déterminisme en fonction du capital physique, du capital financier. Alors, ça se mêle aussi avec la profession, avec les diplômes des parents, si ses parents ont été des énarques ou des polytechniciens. Mais comme ce sont eux aussi qui gèrent les entreprises, vous voyez que le déterminisme est quand même relativement important. Donc, il me semble que le contrat de confiance sur cette capacité à s'élever uniquement par l'éducation a été rompu, et ces études montrent qu'il y a bien un dysfonctionnement dans notre école. Alors, il ne s'agit pas de jeter vraiment l'opprobre sur les professeurs. Je ne pense pas non plus qu'il y ait vraiment une volonté délibérée d'un patronat qui veuille absolument avoir la main mise sur l'éducation. Il suffit juste de comprendre quels sont les dysfonctionnements dans notre école, dans les méthodes pédagogiques ou dans nos modes de sélection. Moi, j'aimerais quand même juste souligner un point, c'est qu'il me semble qu'on a des méthodes pédagogiques qui, justement, augmentent ce sentiment de hiérarchie ou d'oligarchie. Je vous donne juste un exemple. On étudie à l'heure actuelle, avec certains co-auteurs, quelles sont les différences dans les méthodes pédagogiques, dans le type d'enseignement eux-mêmes, entre les différents pays, et en particulier, quelle est la part du temps passé dans les différentes écoles, soit pour les élèves, soit à prendre des notes au tableau en silence, soit au contraire à travailler en groupe, d'accord, très jeune. Alors on mène ces études sur, à chaque fois on a à peu près 150 écoles et collèges dans 80 pays. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que la France est le premier pays avec des méthodes d'éducation très verticales. 65% du temps est consacré à prendre des notes au tableau en silence, et les professeurs font des lectures relativement sous forme de magistère. Si vous regardez ce qui se passe du côté des pays anglo-saxons ou des pays nordiques, ou même de l'Allemagne, en général, la majorité du temps est consacrée plus à travailler en groupe. D'accord ? Et on montre qu'en fait, cette opposition entre ces méthodes verticales et ces méthodes plus horizontales d'éducation sont très liées au sentiment, justement, d'aliénation des enfants. Très tôt, les enfants en France ont le sentiment de ne pas être à leur place. D'accord ? Dans toutes ces enquêtes PISA que je vous citais, en fait, seuls 45% des enfants se sentent à leur place à l'école ou se sentent en sécurité, c'est à nouveau le plus mauvais score, et ont un sentiment d'avoir tout de suite une aliénation beaucoup plus importante face à l'autorité, face au professeur, mais aussi un sentiment que leur destin est très très vite joué. D'accord ? Et vous connaissez le poids du diplôme après dans votre destinée. Et je terminerai, parce que j'ai plus le temps, juste par un troisième point, c'est que je pense que ces méthodes d'éducation sont bien sûr liées à la structure de nos entreprises, D'accord. Mais c'est aussi lié à la structure de nos institutions. Les Français ont souvent un sentiment de défiance très important vis-à-vis de la politique et vis-à-vis de l'opacité de nos institutions et sur le sentiment un peu de hiérarchie vis-à-vis de nos institutions. Et là-dessus, je pense qu'il y a une spécificité, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'en termes de législation, on est beaucoup plus permissif aux lobbies. Je pense que beaucoup de pays ont compris à quel point les lobbies pouvaient aussi amener à des conflits d'intérêts. En France, on a proposé à partir de 1988 une possibilité de restriction de cette influence en proposant que tous les parlementaires puissent, ou les gouvernements puissent, faire une déclaration à la commission de la transparence de leurs biens, d'accord, de leurs biens, de leur patrimoine, mais cette commission de la transparence n'a jamais eu le moindre pouvoir d'instruction, le moindre pouvoir de sanction, parce qu'ils n'ont pas accès aux déclarations fiscales. C'est pas le cas dans les autres pays tels que le Canada. Deuxièmement, on est le seul pays à ne pas rendre public. Donc là, c'est à nouveau, je suis pas vraiment d'accord avec l'affirmation précédente selon laquelle les relations entre les politiques et le monde d'affaires sont affichées. C'est faux. Dans les pays de l'OCDE, on est le seul pays où les pouvoirs publics, en particulier maintenant, n'ont pas à rendre public justement leur patrimoine. Et il me semble que ça entretient le sentiment justement de défiance qu'ont les Français vis-à-vis de l'oligarchie. Alors c'est sûr, la défiance est quelque chose de très néfaste, quelque chose de très mauvais, aussi bien économiquement que plus généralement pour nous, pour pouvoir vivre, pour notre dans une cohésion sociale et même notre attitude au bonheur, d'accord. Maintenant, pour pouvoir lutter contre ça, il suffit pas de dire que c'est juste un problème de fantasme. Je pense qu'on a des véritables dysfonctionnements et on peut continuer à en parler par la suite. Merci. Merci.
On va passer aux questions. Auparavant, je voudrais demander à M. Sellière de réagir sur ce que vient de dire Yann Algan, parce que il y a le problème du ressenti et puis il y a le problème de la réalité du ressenti. Correspondance à ce ressenti, effectivement, il y a un ressenti de défiance. Vous en avez vous-même parlé un peu. Comment vous réagissez à ces commentaires de Yann Algan?
D'abord, je crois que l'analyse sur la société de défiance est tout à fait pertinente. Nous sommes un pays, par rapport en effet à ceux qui nous entourent, dans lequel on n'a pas réussi en effet à vaincre des réticences réciproques extrêmement fortes, et je dirais qu'aujourd'hui, je ne vois pas très bien qui contribue à essayer de dissiper ce climat de défiance. Les grandes campagnes de presse, les grandes campagnes politiques sont plutôt axées sur, je dirais, travailler sur les divisions. Et donc, je ne suis pas très optimiste, en effet, sur la capacité spontanée de notre pays à changer de registre dans ce domaine, et je le crois, en effet, très négatif. Alors, simplement, le professeur Algan avait bien entendu toutes sortes de statistiques à l'esprit. J'en ai aussi. Nous avons créé à l'INSEAD un centre d'études de la grande entreprise familiale, dans laquelle, contrairement à ce qu'il indique, et je crois que son étude est au Danemark, et donc elle est tout à fait, comment dirais, spécifique, en France, par exemple, les entreprises, en effet, qui sont dirigées ou dans lesquelles des familles sont responsables, sont en termes de gains de valorisation qui expriment tout de même la réussite, la croissance, la capacité d'innovation dans une performance supérieure à celles qui ne le sont pas. Mais enfin, je dirais, nous pourrons nous mesurer là sur la réalité, mais je ne partage pas du tout son analyse sur le fait que le capitalisme d'identité dans lequel une famille, un individu s'identifie à ce qu'il fait, n'est pas régi en réalité par des lois de prudence de gestion en même temps que de rigueur de gestion qui sont quelquefois supérieures à celles, bien entendu, de l'économie mixte dans mon esprit, mais également de des sociétés plus anonymes. Cela dit, je crois qu'il faut vraiment se dire que nous sommes, on était tous d'accord pour juger qu'en France, pays de l'égalité, et Dieu sait que dans cette salle, on l'a proclamé avant tout le monde, de pays de l'égalité dans lequel vraiment on travaille sans cesse en thème politique sur l'égalité, ça ne se traduit pas dans les faits. Ça ne se traduit pas dans les faits. Pourquoi? Parce qu'il y a en réalité une sorte de résistance, de réticence atavique dans notre société pour en réalité conduire à l'égalité, excusez-moi du terme, socialiste au terme, en tout cas peut-être communiste du terme, et donc nous n'avons pas en réalité dans la réalité d'une France dont on dit quelquefois qu'elle restait de droite, etc. En fait, nous traduisons dans notre réalité quelque chose qui est différent de ce que l'on professe dans le discours, et ceci, je dirais, c'est quelquefois en effet de la prudence sur la définition de l'avenir, mais c'est également aussi probablement une société dans laquelle la non-vérité, le demi-mensonge est plus qu'ailleurs, a plus qu'ailleurs droit de cité.
Bien. Mais alors, passons aux questions. Allons-y, tout de suite, là, dans l'ordre, hein, en rang de... Voilà. Parlez bien dans le micro pour nous, parce que nous avons
oui,
un mauvais
c'est
retour.
Bon, comme
hein.
Ça.
On va voir.
Oui. J'ai publié au Monde un article proposant de considérer comme un délit toute rémunération supérieure à 30 fois le SMIC. J'ai envoyé copie de cet article à monsieur et à madame Pinson. Peut-être ce sera aujourd'hui l'occasion de répondre, parce que je leur proposais d'ajouter cette idée à la conclusion du président des riches. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, je ne dirais pas rémunération, parce qu'à mon avis, ça dépasse la rémunération. Je dirais prélèvement injustifié sur la substance de l'entreprise. On a dit tout à l'heure que Montesquieu trouvait que la justice avait un atout considérable, c'est de permettre des améliorations techniques. Je souhaite vivement que la justice ait une amélioration technique qui permette de considérer comme délinquants les gens qui s'octroient et se font octroyer des rémunérations absolument excessives et scandaleuses.
Je ne sais pas s'il y a lieu à répondre. Mais,
oui, enfin, moi, je peux bien.
Répondez.
Vous m'avez dit que vous n'avez pas utilisé ça.
Ça me semblait plutôt une remarque.
Oui, non, mais c'est une remarque qui est intéressante parce qu'elle est bien au cœur de la discussion d'aujourd'hui. Parce qu'au fond, vous, si je me souviens bien de votre courrier, vous proposez même une pénalisation, c'est-à-dire d'avoir recours au droit pénal pour sanctionner les gens qui... Au nom de mérite, on ne sait pas comment c'est possible de gagner des millions d'euros quand en France il y a 8 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire en dessous de 945 euros, et quand le salaire médian en France, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est que le salaire médian, c'est le niveau 1500 euros, 50% des salariés gagnent au-dessus de 1500 euros, et 50% des salariés français sont à 1 500 ou en dessous. Quand vous avez des dirigeants d'entreprise qui sont rémunérés avec des millions d'euros, que ce soit sous forme de stock options, de bonus, de rémunération annuelle, ben c'est vrai que ça n'est pas acceptable. Et que les Français, nous on peut vous le dire parce qu'on a fait toute une tournée avec Michel dans toute la France, avec le président des riches, eh bien, ça n'est pas possible, même si c'est au nom du mérite. Parce que bien souvent, derrière le mérite, se cache le pouvoir des héritiers, le pouvoir des oligarques, se cache aussi le problème de la compétitivité. On nous balance toujours la mondialisation. Même monsieur Seyer, tout à l'heure, vous avez parlé de la mondialisation, qu'il faut être les 35 heures, c'est pas bon parce qu'il y a le problème de la concurrence. Mais c'est pas notre mondialisation, cher monsieur, c'est votre mondialisation. On ne se reconnaît pas dans cette économie de marché qui broie les peuples, qui exige avec cette arme de la dette publique que les peuples se serrent la ceinture, que l'école, la santé soient désormais au service des intérêts privés.
On passe à d'autres questions. Alors, il y en a une. On va répartir. Là, il y en a beaucoup, mais allez-y.
Non, moi, je suis désolée.
Levez-vous, s'il vous plaît.
Oui, je suis à entendre certains des orateurs. Je vais devenir triste d'être française, d'être née française, d'être citoyenne française. Et d'avoir choisi de vivre en France alors que j'ai vécu une partie de mes études et dans d'autres pays. Finalement, j'ai décidé de choisir la France. À entendre certains des orateurs, on a l'impression que la France est le pays le plus déplorable et que surtout, on n'aurait pas dû faire la Révolution française, apparemment.
Bon, là, c'est une remarque. Hein. Ici, encore.
Alors, j'aurais deux questions, une pour Madame Pinson et la deuxième, ce sera pour Monsieur Michaud. Alors, pour Madame Pinson, à la question suivante, vous avez parlé d'absentéisme. Or,
d'abstention.
Or, si les gens ne vont pas, si 60% des Français ne sont pas allés voter, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé un leader pour lequel ils ont envie de voter. Donc il n'y a pas un absentéisme réel, il y a un absentéisme de leader qui répond aux attentes des gens qui veulent aller, du peuple qui veut aller voter ou pas voter.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec Michel, dans les propositions que nous faisons dans notre conclusion « Que faire du président des riches ?», nous proposons la reconnaissance du vote blanc. C'est-à-dire que quand on est là face à bonnet riche et riche bonnet, eh bien qu'on puisse voter bonnet blanc. Et que le vote blanc soit reconnu dans les suffrages exprimés. Et si le vote blanc est supérieur à 40%, 50%, eh bien, à ce moment-là, on doit exiger l'invalidation des élections, parce que la légitimité des élus est évidemment menée à mal.
Mais chère madame, bon, qu'il y ait invalidation ou pas, qu'il y ait invalidation ou pas, s'il n'y a pas de leader, ça n'aboutira à rien. Donc la deuxième question que je voulais poser à monsieur Michaud, c'est que quand vous avez préparé ces rencontres, il y a un quatrième pouvoir que vous avez oublié, c'est le pouvoir des médias. Or, ce pouvoir médiatique, il a une importance énorme, et c'est un énorme pouvoir pour lequel j'appelle que la prochaine rencontre des Jeux de Pommes soit consacrée justement à ce pouvoir des médias, et peut-être au contre-pouvoir des médias qu'on peut avoir.
Alors, je vous répondrai tout bêtement, c'est que dimanche matin, de 11h à 13h, à l'Opéra Royal, vous voyez, hein, on change encore de catégorie, le débat portera sur les noces de la politique et de la communication. Hein, donc, c'est bien le titre, à mon avis, est assez parlant. Je voulais juste faire une petite remarque là, au passage. Moi, je suis très inquiet de ces projets, même de vous, de pénaliser quelque chose. Moi, je trouve qu'on a entendu beaucoup de choses sur la justice. Elle est très bien. Les juristes nous ont expliqué à quel point tout ça était très bien. Quand on est usager de la justice, on n'a pas forcément la même expérience. Et la question de la défiance peut aussi se poser. Moi, je crois que l'excès de judiciarisation de la société aujourd'hui peut être aussi très liberticide. Si vous vous mettez à pénaliser toutes sortes de comportements, y compris les salaires excessifs, mais où ira-t-on ? Hein, où ira-t-on ? Ce que, en revanche, je mettrais en cause, et à mon avis, c'est ce qui m'a semblé percer, si vous voulez, à travers les échanges ici, c'est que, encore une fois, une oligarchie n'est pas en elle-même condamnable. Hein. Le régime mixte de constitution, le régime mixte politique dont a parlé Rosan Vallon ce matin, mélange des aspects aristocratiques, des aspects démocratiques et même des aspects despotiques, éventuellement. Simplement, ce qui devient dangereux politiquement, et je dirais, et à la fois factuellement et du point de vue de la justice, c'est quand les oligarchies, je dirais, ferme la porte derrière elle. Et je pense que c'est un des gros problèmes français. Je pense que le problème français, c'est le verrouillage des oligarchies. Le verrouillage des oligarchies sur elles-mêmes. Et d'une certaine manière, vous pouvez même en faire une critique pro-capitalistique. D'une certaine manière, les élites françaises ne sont pas assez ouvertes au renouvellement. Elles ont fermé la porte derrière elles. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur le mérite il y a 2 ans et qui est reparu en poche cette année. C'est vrai que moi je suis très étonné que les gens ne croient plus au mérite. Qu'est-ce qui se passe quand les gens ne croient plus au mérite? Alors Monsieur Sellier nous dit oui, nos élites sont fondées sur le mérite. C'est vrai, mais le mérite il est verrouillé d'une certaine manière. Alors comment se fait-il qu'il soit verrouillé? Algan a dit des choses intéressantes là-dessus. Je pense que les programmes, la pédagogie, la conception du rapport à l'école, les conceptions hiérarchiques sont très importantes. Et alors là, il n'y a pas que l'oligarchie qui est coupable. Il y a aussi tout un système de conservatisme français qui est là derrière. Hein. Donc, je dirais que moi, ce qui m'a paru, et puis je vous rends la parole, ce qui m'a paru intéressant dans la table ronde, c'est le phénomène de l'oligarchie personne ne le conteste vraiment. On peut le condamner, on peut dire qu'il n'est pas si redoutable que ça, mais en revanche, je crois que ce qui fait en partie le ressenti de défiance et de manque de confiance aujourd'hui en France, c'est la conscience que le monde oligarchique est fermé sur lui-même, c'est qu'il y a un verrouillage. Voilà. Allez-y. Oui, plus fort, hein.
Ne doit plus marcher. Si, ça y est.
Si, c'est bon.
Je suis un petit peu surpris par le discours de monsieur et madame Pinson, que je trouve franchement un peu caricatural, parce que vous avez parlé de Marx, mais Marx fait une analyse extrêmement fine de ce qu'il appelle les contradictions à l'intérieur des classes dominantes, hein, par exemple dans les luttes de classe en France. Et puis il analyse par exemple la caste des juristes. Il montre que les juristes ne sont pas du tout pour lui des laquais du capitalisme. Les juristes engendrent leur propre idéologie. La question que je pose, c'est que est-il vraiment possible de rénover la démocratie, comme l'appelait ce matin, appelait de ses voeux Pierre Rosanvallon ou Yann Algan à l'instant, ou Yves Michaud, est-il vraiment possible de rénover la démocratie à partir d'une analyse aussi, je suis désolé, mais sommaire, monolithique? Voilà ma question.
Non, c'est Michel.
Alors, allez-y, Michel.
Notre analyse n'est pas sommaire. Si on regarde qui entre à l'ENA, vous avez beaucoup plus d'héritiers que d'enfants d'ouvriers. Ça, c'est toujours pareil. Il y a un effort qui a été fait en ouvrant des filières particulières pour entrer à l'ENA, mais n'empêche qu'il y a toujours cette inégalité. Il n'y a pas que ça. Si vous voyez la carrière que les élèves sortant des grandes écoles vont faire ensuite à l'âge adulte, après être sortis de leurs grandes écoles avec leur diplôme, Pierre Bourdieu a fait une étude fouillée et abondante là-dessus. On voit très bien que, à diplôme égal, l'origine sociale continue à jouer dans la carrière. C'est-à-dire qu'un polytechnicien qui est fils de polytechnicien lui-même, qui est déjà directeur d'une entreprise, etc., ira beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que le polytechnicien miraculé venant d'un milieu ouvrier. Et cette statistique met en évidence qu'il y a dans le fonctionnement social une inégalité systématique, disons, qui tient aux réseaux dans lesquels les personnes fortunées, les personnes héritières et les nouveaux patrons, les nouveaux enrichis, sont dans des réseaux où se concentrent toutes les formes de pouvoir, comme j'ai essayé de le dire au début. Alors justement, pour ce qui est des héritiers, il y a quand même beaucoup d'héritiers qui sont aux commandes aujourd'hui. Je ne parlerai pas de vous, mais il y a monsieur chez les Lagardère, chez les Bouygues, chez les etc. Il y a quand même des dynasties qui existent.
Il y en a, bien sûr.
Ah bah oui, mais c'est pas les.
C'est pas la règle générale, comme vous tendez à le faire, à le démontrer par vos études, et vos études se couvrent de sociologie en fait pour dénoncer. Et madame Pinson en a donné un exemple flagrant. En réalité, un discours qui est aujourd'hui frise le politique. Vous êtes en fait en train de, je dirais, de dénoncer une société qui ne vous plaît pas et dans laquelle, en effet, il y a une oligarchie. Mais j'y reviens. En réalité, ce qui est important, c'est le réseau. C'est vrai. Mais qui parle ici de la franc-maçonnerie, qui n'est pas très présente peut-être dans le milieu économique, mais qui est extrêmement puissante dans l'État? Je regrette d'ailleurs, j'ai dit à M. Michaud, qu'il n'y ait pas une séance consacrée à la franc-maçonnerie dans l'État. Parce que c'est une réalité occulte, bien plus cachée que la rémunération des dirigeants, et qui a une extrême puissance. Bien entendu, je ne la dénonce pas, mais j'aimerais bien qu'on la révèle un peu plus. Donc je crois, si vous voulez, que dans la démocratie, il y a un réseau, bien entendu, dans l'oligarchie, c'est naturel, ça existe partout, personne n'en est exclu, par aucune loi, ni par aucune loi naturelle, et en réalité, notre société est, et 15 ans de socialisme l'ont montré, irriguée par, en réalité, des gens qui sont d'origine modeste, comme on dit, qui sont passés d'ailleurs par la gauche française, et qui aujourd'hui occupent à la tête des entreprises françaises, très nombreux, des positions très fortes. Donc, vous dénoncez l'oligarchie. Certes, elle existe. Je ne dis pas en une seconde qu'elle est verrouillée. Et c'est vrai qu'elle est peut-être verrouillée par l'infrastructure française. Et là, nous avons en effet les syndicats d'enseignants qui tiennent avec un conservatisme total les méthodes d'enseignement dans notre pays. C'est vrai. Mais tout ceci, en réalité, je ne le dis pas pour essayer d'opposer les réalités les unes par rapport aux autres. Je le dis pourquoi ? Parce que, en réalité, notre société, dont nous sommes fiers, qui en réalité a ses travers, mais qui quand même, en gros, est une des meilleures sociétés démocratiques et solidaires du monde, cette société, elle est menacée dans son avenir par nos propres querelles internes. Et la capacité qu'ont d'autres pays, comme par exemple notre voisin l'Allemagne, en réalité de mettre tout ceci, je dirais, un peu sous la moquette, de façon à se réunir, à s'unir pour une réussite collective, c'est à ça que nous devons aspirer, et on aspire également à qui serait capable, sur le plan politique, à, je dirais, se mettre dans un climat d'union nationale tel que, quel que soit, je dirais, le parti auquel on appartient, je pense bien entendu au parti de gouvernement, on se réunit dans des gouvernements d'union nationale pour promouvoir en commun, je dirais, notre réussite. À se chipoter, comme vous le faites, sur l'appartenance à un réseau qui, selon vous, serait condamnable, en réalité, vous compromettez la réussite française. Nous n'avons pas besoin de ça.
Alors, on va prendre encore... On va prendre encore deux questions. Hein. Une ici, madame, vous demandez la parole depuis longtemps, et puis monsieur après.
Attendez, monsieur Seyrière, je m'adresse, bonjour, je m'adresse particulièrement à vous, bien que j'ai apprécié tout ce que tout le monde a dit.
Parlez plus dans le micro, s'il vous plaît.
Pardon. Donc, effectivement, la réussite, à l'heure actuelle, elle est difficile pour beaucoup de gens qui ne sont pas de votre catégorie sociale, pour la bonne raison que du travail, il n'y en a pas. À l'âge que j'ai, je me balade en France, j'ai connu plus jeune plein de choses. Or, des personnes de votre milieu social ont délocalisé plein d'entreprises et du coup du travail, il n'y en a plus en France et à différents endroits en Europe. Le travail est mal fait. En Chine et compagnie, ils se révoltent et c'est peut-être une très bonne chose et peut-être que de ce fait, on parle à nouveau de relocalisation. Et un deuxième point, la fiscalité dont monsieur a parlé. Effectivement, en France, elle est à mettre complètement à plat. Parce que les niches fiscales dont on nous rabat les oreilles actuellement et que les trois quarts des gens ne connaissent pas, c'était le pourcentage qui est de 40%, la plus haute tranche fiscale qui est passée à 41%, c'est de la rigolade. Tout le monde comprendra ici que quand on travaille à deux et qu'on a un travail, on va dire, correct, on a un taux d'imposition élevé et que quand une personne qui a de très hauts revenus, alors pour revenir à monsieur, gagner de l'argent, je trouve que c'est normal. On ne peut pas opposer les classes sociales les unes aux autres. Il y a des gens qui gagnent, du moment qu'on le gagne honnêtement. Mais honnêtement, au niveau fiscal, succession et tout ce que vous voulez, vous parlez des 35 heures, mais je dirais que c'est de la roupie de Sansonnet par rapport à la TVA sur la restauration, les droits de succession qui ont été diminués, etc., etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup de choses et avant d'opposer les classes sociales les unes aux autres, eh ben, que déjà les gens responsables à tous les niveaux puissent faire des choses correctes parce que des gens payés trois fois rien, c'est absolument anormal. Voilà, c'est tout. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais là, ça fait un moment que ça me dérange.
On prend la question là et puis ensuite...
Merci déjà pour les interventions. Et dans votre intervention, M. Algon, vous parliez des modèles d'éducation, il me semble. Vous disiez qu'en France, on avait un modèle hiérarchique, c'est-à-dire que seuls 45% des élèves se reconnaissaient dans la manière d'éduquer. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris ça. Et dans les autres pays, ils utilisent d'autres méthodes, peut-être plus collectives, avec des groupes de travail, des choses comme ça. Monsieur Seyrière, par rapport au monde de l'entreprise, parce que l'éducation, moi je n'y travaille pas, mais le monde de l'entreprise, dans le CAC 40, quelles sont des méthodes aujourd'hui qu'on peut mettre en place pour favoriser les groupes de travail et davantage, en fait, de, comment dirais-je, moins de modèles hiérarchiques dans les propositions faites ? Je ne sais pas si ma question est très claire.
Mais... Voilà, si, c'est bon. Allez, M. Algon, réponse, et M. Seyrière.
Oui, j'aurais une réponse brève. Effectivement, peu d'études jusqu'à maintenant essayaient d'ouvrir la boîte noire des méthodes pédagogiques. Or, on s'aperçoit que la France a certaines spécificités. Ce n'est pas le seul pays. Hein, le Japon partage aussi. Et effectivement, la majorité du temps, d'enseignement, en particulier au collège, hein, d'accord, donc on interroge les femmes de la 4e, 3e, donc la majorité du temps est passée juste à écouter le professeur en silence et à prendre des notes au tableau. Alors que dans de nombreux pays, donc je vous donne un exemple, en Suède, 2/3 du temps est passé à travailler sur des projets collectifs en groupe. Alors, c'est pas la faute des enseignants. Plein d'enseignants aimeraient travailler beaucoup plus sur des projets collectifs. C'est juste qu'on n'a pas, pour le moment, de méthode au niveau national, d'impulsion sur des méthodes pédagogiques. Or, il semble, et je terminerai juste sur ce point, il semble en fait que les capacités de coopération dans une société s'apprennent très très tôt, s'apprennent dès le plus jeune âge. Toutes ces capacités non cognitives d'estime de soi, de confiance dans les autres, de confiance dans les institutions, ce genre de choses, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et si vous êtes un système qui au contraire apprend beaucoup plus le respect ou la hiérarchie dans les méthodes pédagogiques elles-mêmes, malheureusement vous ne faites qu'entretenir encore un peu plus la défiance.
Et ça correspond ce que vient de dire Yann, ça correspond exactement aux écoles de la bourgeoisie. Si vous naissez chez les héritiers, dans les grandes fortunes, vous avez un système scolaire qui ne correspond pas du tout au reste du système scolaire, soit par des écoles privées, soit par des écoles publiques qui ne sont fréquentées que par les enfants des grands de ce monde. Et les méthodes Montessori et Freinet qu'on croit être spécifiques aux classes moyennes intellectuelles sont utilisées massivement depuis la fin du 19e siècle par le milieu des grandes familles. De monsieur Seyer. Oui, non, mais nous, c'est dans les nôtres. Hein. Vous n'avez qu'à nous lire, vous verrez. C'est formidable, c'est le collectivisme, c'est les projets, c'est la solidarité, la coopération.
Oui, voilà. Monsieur Seyer,
je laisse Madame Pinson à ses obsessions et je réponds donc à votre question sur l'exercice en effet du pouvoir dans les entreprises, pour vous dire en très peu de mots, parce que c'est un sujet très complexe, que quand je suis arrivé, moi, dans le groupe Wendel, il y a 30 ans, nous étions dans un système où ce que a été décrit est exact. C'est-à-dire qu'en fait, le patron était à la fois le détenteur du pouvoir hiérarchique et le sachant. Il savait tout mieux, et donc il imposait à la fois par l'autorité et par le savoir. Et nous sommes passés, en l'espace d'une génération, à une méthode totalement différente de gestion de l'entreprise, qui n'est pas décrite, parce qu'on se réfère toujours, en effet, à des, je dirais, études passées, Bourdieu, d'accord, mais enfin, cela vous, ça, quand même, ça date. Et donc, nous avons aujourd'hui une organisation d'entreprise qui, au contraire, se concentre sur des petits groupes auxquels on confie une responsabilité et un objectif, qu'on laisse libre, d'ailleurs, de déterminer souvent entre eux comment le réaliser, et qu'on juge au résultat. Et donc, en fait, nous avons irrigué complètement aujourd'hui l'entreprise française, et c'est pour ça qu'ailleurs, qu'en dépit de ses travers, de ses charges et de tout ce qu'on voudra, elle reste compétitive. C'est parce que le management, et d'ailleurs les salariés d'une manière générale, ont totalement évolué dans leur manière de faire. Et d'ailleurs, nous essayons, bien entendu, de montrer à la fonction publique, bien souvent, en effet, l'efficacité de ces méthodes et le caractère, je dirais, particulièrement dynamique des entreprises dans lesquelles il n'existe pas de statut.
Bien, ben nous allons rester là. Je vous donne rendez-vous demain à 11h pour la suite de nos échanges. Merci, bonsoir.